Voilà, bonjour à chacun. Dimanche dernier, nous avons célébré Pâques, la résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort qui est aussi notre victoire, si nous sommes en lui par la foi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 56, nous lisons qu'au moment de l'arrestation de Jésus, tous les disciples ont pris la fuite et l'ont abandonné. Des disciples pour qui tout s'est brutalement arrêté, puis des disciples pour qui tout s'est complètement effondré quand leur maître est mort sur la croix. Au matin de Pâques, quand Marie-Madeleine vient leur dire que le Seigneur est ressuscité, les disciples sont groggy. Ont-ils cru Marie-Madeleine ? Non. Marc, dans son évangile, nous dit ceci, le dit clairement, Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. À l'évidence, les disciples sont perdus. Et ce matin, nous les retrouvons rassemblés le soir du premier jour de la semaine de la résurrection, le soir du jour de Pâques. Depuis que Marie-Madeleine est venue leur dire que le Seigneur est ressuscité, celui-ci est apparu, Paul nous l'a dit ce matin, est apparu à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et puis il est aussi apparu à Pierre. Quand les deux disciples d'Emmaüs ont compris que l'étranger qui cheminait avec eux était le Christ ressuscité, ils sont retournés le soir même à Jérusalem. Paul vient de nous le lire, je lis juste ces quelques versets, je les relis. « Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les onze et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon ». Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Est-ce que les disciples ont vraiment compris ce qui se passait ? Est-ce qu'ils ont cru au témoignage de ces deux disciples d'Emmaüs ? Il faut répondre non. Non, si on en croit ce que Marc nous dit dans la suite du texte que nous avons déjà lu au chapitre 16. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Voilà, le décor est planté. Les disciples sont réunis avec les pèlerins d'Emmaüs. C'est le soir du premier jour de la résurrection. Il y a eu plusieurs apparitions de Jésus tout au long de la journée, plusieurs témoignages. Mais les disciples sont dans un brouillard spirituel épais. Ils sont dans l'incrédulité. Et voilà que le Seigneur apparaît au milieu d'eux. C'est le texte que je vous invite à lire ce matin, à méditer ensemble. Nous allons en lire une première partie maintenant au chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Je lis les versets 19 à 23. Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus apparaît donc aux disciples, à ses disciples. L'apparition aux disciples, c'est notre deuxième point. Et notre texte commence par la précision que les disciples sont enfermés quelque part par crainte des Juifs. On peut facilement comprendre cette crainte. La crainte certainement de subir le même sort que leur maître. Les autorités juives ont voulu se débarrasser de Jésus. Chercheront-elles à se débarrasser de ses disciples ? Souvenons-nous ici des paroles de Jésus dans la chambre haute lors du dernier repas, des paroles qui n'étaient pas faites pour les rassurer. Quand Jésus leur a parlé de la haine du monde à leur égard et des persécutions à venir, Jean chapitre 15, versets 18 à 20, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et puis, quelques versets plus loin, au début du chapitre 16, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. » Ces quelques rappels suffisent à nous montrer que les disciples n'étaient pas que des poules mouillées. Ils avaient de sérieuses raisons de penser que leur vie était en danger, même si le Seigneur les avait invités à la confiance, à ne pas craindre. Mais depuis, il est mort. Et cela change quand même beaucoup de choses. Ajoutons à cette explication au sujet de leur crainte le fait qu'ils devaient être dans la confusion, dans le découragement et dans la honte. La confusion, car malgré les évidences de la mort de Jésus, il y avait eu tous ces témoignages des différentes apparitions du Seigneur tout au long de la journée. Et j'aimerais dire ici, à la décharge des disciples, que croire à la résurrection corporelle de Jésus était tout sauf une évidence. Pour les disciples, comment croire à quelque chose d'aussi incroyable? Comment croire à quelque chose d'aussi inédit? Nous connaissons toute l'histoire, mais eux, en situation, il y avait de quoi perdre son araméen. Le découragement ensuite, car tout s'effondre pour eux en quelques heures. Ils ont perdu tous leurs repères. Tous leurs espoirs se sont envolés. Imaginez, un des leurs a trahi leur Seigneur. Comment ne pas être découragé? Nous avons lu dans Marc 16, verset 10, qu'ils menaient deuil et pleuraient. Les disciples sont littéralement au fond du trou. Et pour l'heure, plus aucune pièce du puzzle ne semble coller avec les autres. Enfin, la honte, car ils ont tous, je dis bien tous, abandonné Jésus avec lâcheté. Il ne s'agit bien évidemment pas de leur jeter la pierre, nous aurions sans doute tous fait pareil. Mais comment continuer après cette trahison? Les disciples sont donc dans la confusion, dans l'abattement, dans la honte et l'incrédulité quand soudain Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Et je pense que les disciples ont dû avoir, comme on dit familièrement, la frousse de leur vie. D'ailleurs, ils pensent voir un esprit. Ils pensent voir un fantôme. Notez que ce n'est pas comme si Jésus avait toqué à la porte, hein, qu'ils avaient ouvert et puis qu'il était rentré. C'est Luc qui nous dit qu'il s'agit dans l'esprit des disciples de la possibilité d'un esprit, d'un fantôme. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Cette apparition de Jésus nous dit que le corps ressuscité de Jésus n'est plus soumis aux mêmes lois de la nature, comme le sont les nôtres. Et de la même manière que le corps du Seigneur est passé au travers des bandelettes dans le tombeau, il entre dans la pièce où sont les disciples sans passer par la porte qui reste fermée. Oui, les disciples ont eu très peur. Ils sont troublés. Ils sont troublés, dit Luc, dans la suite du texte. Et Jésus va chercher à les rassurer. Tout d'abord, il les rassure en leur adressant la salutation traditionnelle. « Que la paix soit avec vous. »« Que la paix soit avec vous. » Puis il les rassure en leur montrant que c'est bien lui. En leur montrant que c'est bien son corps ressuscité. Avec les stigmates de la crucifixion, il leur montre ses mains, percées par les clous, il leur montre son côté, percé par la lance. Oui, il les rassure en leur montrant qu'il n'est pas un esprit. C'est Luc qui ajoute cette dernière précision. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et Luc continue en précisant que Jésus, pour finir de les convaincre, va manger devant eux. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Jésus est apparu à ses disciples pour qu'ils croient en sa résurrection, pour qu'ils n'aient plus de doute. Bien sûr, ils auraient dû croire les témoignages qui leur avaient été faits tout au long de la journée. C'est pourquoi Marc nous dit que Jésus leur a fait des reproches. Marc 16, verset 14, « Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Si Jésus leur fait des reproches, ce n'est pas pour les enfoncer, bien évidemment, mais c'est pour les faire entrer pleinement dans la réalité de sa résurrection. Une réalité qui va être le socle de la mission que le Seigneur va leur confier. Notons, avant de dire un mot sur cette mission que Jésus va leur confier, que ce que le Seigneur a fait pour les rassurer, pour leur prouver que c'est bien lui, pour leur prouver qu'il est corporellement ressuscité, les amène à la joie, à se réjouir, dit Jean au verset 20, une joie que Jésus avait promise, une joie que Jésus avait annoncée dans la chambre haute. Vous donc aussi, disait Jésus, vous avez maintenant de la tristesse, « Mais je vous verrai de nouveau, je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira, et nul ne vous ôtera votre joie. » Les disciples sont maintenant rassurés et ils sont dans la joie. Un certain temps s'est sans doute passé depuis que Jésus leur est apparu. Ils ont eu certainement le temps de partager le repas. Et maintenant, Jésus les envoie en mission. Je relis le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jésus envoie ses disciples. Il a lui-même été envoyé par le Père. Maintenant, c'est lui qui envoie ses disciples, qui deviennent les apôtres, puisque ce mot « apôtre » signifie simplement « envoyé ». Envoyé pour quoi faire ? Envoyé pour prolonger sa mission ? Envoyé pour prolonger son œuvre ? Une œuvre enracinée dans la réalité de la résurrection. Une œuvre ancrée dans la paix que Jésus leur donne. En effet, il faut noter ici que Jésus répète la salutation « Que la paix soit avec vous ». Pourquoi cette répétition ? À l'évidence, pas pour les saluer à nouveau, mais sans doute pour leur donner la paix qu'il leur a promise. Sa paix qui découle de son œuvre accomplie, qui découle de sa résurrection, qui fonde leur apostolat. Cette paix, c'est la paix de la réconciliation avec le Père. C'est la paix que Jésus est venu annoncer, comme le souligne l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Il n'est pas étonnant que la paix soit systématiquement associée à la grâce dans la salutation de chaque épître de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans les salutations de chaque épître de l'apôtre Paul. Oui, Jésus envoie ses disciples en mission pour annoncer cette paix qui est maintenant possible par la mort et la résurrection de Jésus, même à ceux qui sont loin, même à ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, par exemple. Oui, Jésus envoie ses disciples en mission aussi pour prêcher le pardon des péchés. Versets 22 et 23 sont beaucoup débattus dans les commentaires bibliques. Et ça serait beaucoup trop long que d'entrer un petit peu dans la compréhension de ces versets, d'essayer d'en faire un petit peu le tour. D'autant plus que je voudrais poursuivre le chemin et aller vers l'apparition suivante de Jésus aux disciples. Je note juste ici que cette mission que Jésus confie à ses disciples ne sera possible que par la puissance du Saint-Esprit qu'il souffle sur eux. Peut-être comme un acte prophétique, Saint-Esprit qu'ils recevront pleinement lors de la Pentecôte. Avant l'apparition suivante de Jésus, il y a une rencontre entre les disciples et Thomas. Thomas, qui n'était pas présent, et lors de cette rencontre, les autres disciples lui témoignent de la résurrection de Jésus. Le témoignage à Thomas, c'est notre troisième point. Et je lis la suite, les versets 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » C'est en lisant la suite du récit que nous comprenons, que nous apprenons donc que Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, était absent lors de cette première apparition de Jésus à tous les disciples que nous venons de décrire. Cela veut donc dire que Thomas n'a pas vu Jésus ressuscité. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas mangé avec lui. Et malgré le témoignage des autres disciples, il ne croit pas. Il doute. Verset 25, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Notons que Thomas expérimente ici les doutes que ses amis ont expérimenté quelques heures ou quelques jours plus tôt. Comme eux, il a du mal à croire sans voir. Comme eux, il doute. Pourquoi Thomas était-il absent alors que les autres disciples étaient apparemment tous présents lors de la première apparition ? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire et utile d'essayer d'imaginer une raison, et sûrement pas une raison qui expliquerait son absence en faisant un lien avec son doute et son incrédulité, comme beaucoup s'y sont essayés. Ça m'apparaît d'autant moins nécessaire que nous avons vu que tous étaient dans l'incrédulité, pas seulement Thomas. Peu importe donc la raison. Ce qui importe ici, c'est que Thomas reste à convaincre. Le témoignage des autres disciples aurait dû suffire à les convaincre, tout comme celui de Marie-Madeleine aurait dû suffire à les convaincre, ou comme celui des deux disciples d'Emmaüs aurait dû suffire à les convaincre. Mais Thomas, ici, n'est pas encore prêt à croire, à moins que le Seigneur ne se révèle directement à lui. Et c'est ce que nous allons voir dans le quatrième point, l'apparition aux disciples avec Thomas. Et je lis les derniers versets, les versets 26 à 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La nouvelle apparition de Jésus se passe 8 jours après la première. Et nous constatons ici que les disciples sont toujours enfermés. La crainte des Juifs semble être toujours là. Notons d'ailleurs que c'est un des arguments majeurs pour penser que le souffle de l'Esprit sur les disciples par Jésus lors de la première apparition n'était que symbolique ou prophétique. Et ce n'est qu'après la Pentecôte, après que l'Esprit ait été effectivement donné aux disciples, qu'ils n'auront plus peur. Mais à ce stade, ils sont encore dans la peur. Ils sont encore enfermés. Ils sont tous là avec Thomas cette fois-ci. Et comme la fois précédente, Jésus apparaît soudain au milieu d'eux. Et il les rassure avec la même salutation. Puis sans autre, apparemment, il s'adresse directement à Thomas. Thomas, dont Jésus sait tout, à l'évidence, toutes les craintes, tous les doutes, tous des doutes qui l'assaillent, tout de l'incrédulité qui est la sienne. « Ne sois pas incrédule, dit Jésus, mais crois. » Et il invite Thomas à faire ce qu'il avait invité les autres à faire une semaine plus tôt. Il invite Thomas à toucher, il invite Thomas à se rendre compte par lui-même que c'est bien lui, le même, lui qui a été crucifié, lui qui est maintenant revenu à la vie. On ne peut que s'émerveiller ici de la patience de Jésus, de sa pédagogie. Aucune brebis n'est abandonnée sur le bord du chemin. Aucun de ses disciples n'a moins de valeur que les autres. Et Jésus prend le temps de convaincre Thomas qu'il est bel et bien ressuscité. Et la réponse de Thomas ne se fait pas attendre. « Mon Seigneur et mon Dieu, dit-il. » Quelle merveilleuse confession de foi. Thomas a vu, Thomas a touché, et maintenant il croit. Il croit que Jésus est non seulement le Seigneur, mais son Seigneur. Il croit que Jésus est non seulement Dieu, mais son Dieu. Thomas est passé de l'incrédulité à la foi, et à la foi pleine et entière en la résurrection de Jésus. Notons ici que le verset 27 nous fait comprendre que croire en Jésus ne peut pas être dissocié de la foi en la résurrection corporelle de Jésus. Quand Thomas ne croyait pas que Jésus était ressuscité, il était incrédule, dit Jésus. Avoir la foi en Jésus, c'est croire qu'il est corporellement revenu à la vie. C'est croire et confesser qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Et après cette belle déclaration de Thomas, Jésus va dire une béatitude au verset 29. Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas a dû voir, il a dû toucher pour croire. Et Jésus le souligne. Il y a peut-être ici quelque chose de l'ordre du reproche, peut-être pas. En tout cas, rappelons que tous les autres disciples ont fait le même cheminement que Thomas. Mais la suite nous concerne directement. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, et qui ont cru. Cette parole de Jésus concerne toutes celles et ceux qui croiront en dehors des différentes apparitions, des quelques apparitions physiques de Jésus. Elle concerne celles et ceux qui croiront sur le seul témoignage des apôtres, sur le témoignage des Écritures. Elle nous concerne donc, et elle débute une nouvelle ère. L'ère de la foi qui devra se contenter du témoignage des apôtres. Nous arrivons à notre dernier point. J'aimerais conclure avec trois courts prolongements. Le premier concerne la manière dont nous vivons notre foi, notre témoignage du Christ ressuscité. Je vais dire les choses en faisant allusion au texte. Où est-ce que je vis ma foi? Est-ce que je suis enfermé dans mes craintes? Ou est-ce que je suis un témoin qui sort vers les autres? Vous l'avez compris, je fais allusion ici au fait que les disciples étaient enfermés. Enfermés dans leurs pièces, enfermés dans leurs craintes. Et je crois qu'il peut nous arriver, pour d'autres raisons que les leurs, bien sûr, de nous retrouver parfois dans une situation analogue. Nous aussi, si nous sommes disciples du Seigneur, nous avons été envoyés. Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner de sa résurrection. Et nous aussi, parfois, nous nous enfermons dans nos craintes. Nous nous laissons enfermer par nos craintes. La crainte du « qu'en dira-t-on ? » La crainte d'être rejeté, la crainte d'être moqué, la crainte d'être bousculé, maltraité, la crainte de tous les risques possibles. Chers amis, nous avons un message à apporter au monde, celui de la résurrection de Jésus, celui de sa victoire sur la mort, celui de la bonne nouvelle du salut qui nous rend participants à sa victoire. Ne restons pas dans nos enfermements, ouvrons nos portes, sortons et soyons les témoins de la victoire de la vie sur la mort, les témoins du Christ ressuscité. Soyons les témoins que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Le deuxième prolongement concerne la réalité du doute qui est au cœur de ce qui s'est passé, non seulement avec Thomas, mais avec tous les disciples. Assez spontanément, nous avons tendance à considérer le doute comme quelque chose de négatif, de nuisible à notre foi. Et c'est le cas si je capitule devant le doute. Mais ce n'est pas le cas si dans le doute, je cherche Dieu. La question n'est pas de savoir si le doute existe, il existe. Et il existe, je pense, pour chacun de nous à un moment ou à un autre. La réalité de la foi dans notre vie est une réalité mêlée. Et il faut tordre le cou ici, tordre le cou à cette idée qu'avoir la foi, ce n'est jamais douter. Ce n'est pas vrai. C'est un fantasme. Un fantasme assez courant parmi les chrétiens que de penser que la vraie foi est forcément pure à 100%. Mais en fait, à cause de notre humanité, à cause de notre péché, la foi est souvent mélangée à d'autres choses, comme la peur, comme le doute, ou même l'incrédulité. Et l'exemple biblique le plus frappant, peut-être, de cette réalité mêlée, c'est la parole de ce père dans les évangiles, souvenez-vous, qui amène son fils démoniaque à Jésus et qui lui dit, nous trouvons ça dans Marc 9, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « je crois, oui, mais viens au secours de mon incrédulité. » La foi et l'incrédulité mélangées. Le problème n'est pas, me semble-t-il, de ne pas douter, mais de savoir ce que je fais avec le doute quand il vient dans ma vie, quand il croise mon chemin. Est-ce que je laisse le doute m'arrêter sur le chemin de la foi? Ou bien est-ce que je vais utiliser ce doute pour chercher encore plus Dieu? En effet, les doutes, nos doutes se dissipent souvent quand nous entrons dans la communion avec Dieu, quand nous cherchons Dieu, quand nous sommes dans sa parole, quand nous sommes dans la prière. Alors oui, paradoxalement, nos doutes peuvent nous faire progresser dans la foi. Mais il faut pour cela ne pas les accepter, mais les utiliser comme un tremplin pour avancer, pour persévérer, pour chercher Dieu, pour nous approcher de Dieu. Chers amis, que faites-vous du doute quand il vient frapper à votre porte? Est-ce que vous le laissez vous paralyser dans votre vie spirituelle? Ou bien, à l'instar de ce père dans les évangiles, criez-vous à Dieu, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Que le Seigneur nous aide chacun à avancer malgré nos doutes, des doutes qui ne manqueront jamais de croiser notre chemin ici-bas. Le troisième et le dernier prolongement concerne la foi sans la vue ou avec la vue, il faut choisir. Faut-il marcher par la foi ou faut-il marcher par la vue ? Je pose la question parce que notre passage pourrait nous laisser à penser que la vue a sa place, par moment. Puisque Jésus se rend accessible au sens des disciples, il se présente à eux, il leur montre ses stigmates et il les laisse le toucher. Et pourtant, l'apôtre Paul aux Corinthiens affirme que nous marchons par la foi et non par la vue, dit-il. Alors comment résoudre cette question? Clairement, la vie chrétienne est une marche de la foi, par la foi. C'est-à-dire une marche où je m'appuie non pas sur ce que je vois, non pas sur ce que je ressens, en tout cas pas premièrement, mais sur ce que Dieu a dit, sur la parole de Dieu. Il y a bien évidemment une certaine facilité à marcher par la vue, par ce qui est tangible, ce qui est palpable. C'est rassurant. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Alors comment comprendre ce qui se passe avec les disciples ? Il faut noter ici que les disciples se sont trouvés dans une situation toute particulière et sans doute unique, une situation qui ne peut pas être normative. D'ailleurs, ils n'avaient pas les Écritures comme nous les avons. Ils n'avaient pas le témoignage des apôtres comme nous les avons, comme nous l'avons, bien évidemment. Parce que c'est leur témoignage qui va devenir déterminant pour la suite. Ils vont devoir rapidement intégrer cette réalité incroyable de la résurrection de Jésus pour en être ensuite les témoins, les porteurs de cette bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui, après eux, vont croire, vont devoir croire sans voir. Ils vont devoir fonder leur foi sur le témoignage apostolique. Il est possible que parfois Dieu nous accorde quelque chose de tangible, de visible pour nous aider à avancer, un signe, une confirmation selon son bon vouloir et parce qu'il l'estime nécessaire pour nous à ce moment-là. Oui, mais ce n'est qu'une exception qui confirme la règle et non pas la norme. Notre feuille de route est d'avancer par la foi, et la foi seule, en nous appuyant sur la parole de Dieu, et donc en particulier sur le témoignage des apôtres, qui eux ont entendu, ont vu, ont touché, comme l'écrit Jean au début de sa première épître. Ce qui était dès le commencement, dit-il, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Oui, notre feuille de route, basée sur le témoignage visuel des apôtres, basée sur leur témoignage crédible, ils ont entendu, ils ont vu et ils ont touché. Notre feuille de route est maintenant de croire cela. De croire sans voir. Heureux, dit Jésus, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux parce qu'ils ont la vie éternelle. Heureux parce qu'ils sont en communion avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Oui, heureux sommes-nous si nous avons cru, si nous croyons sans voir, que le Christ est ressuscité. Que le Seigneur nous fasse cette grâce à chacun. Amen.